4 corbeaux sur un arbre perché, 1515, 9 x 7, préfecture de la Corrèze, vous vous en souvenez? Bonne mémoire de ces choses apprises à l'école, rabâchées, assénées, les enfants d'Isieux, les morts de Charonne ou les bateaux négriers, devoir de mémoire, autre souvenir, une affaire d'historien et de citoyen. Faut-il l'apprendre à l'école? Oui. Faut-il faire porter le poids du souvenir, celui des enfants martyrs de la Shoah, en l'occurrence à des gamins de 10-11 ans? L'affaire fait rage en France. Une idée du chef de l'État et hop, une polémique d'État, bientôt occultée par les opérations policières à grand spectacle dans les banlieues françaises. Mais résistons et attardons-nous un peu, puisqu'on parle de mémoire. Peut-être ne faut-il pas l'avoir trop courte et se souvenir qu'il existe des films, ce soir encore à la télé française, une fiction sur la résistance, qu'il existe des témoignages, le journal d'Anne Frank notamment, à lire à cet âge, des livres d'histoire aussi pour comprendre, apprendre, réaliser sans pathos ni traumatisme, car l'histoire ne peut être une douleur, ne peut être l'histoire d'un seul, terrible travers de l'individualisme, là encore, qui voudrait qu'on se souvienne par fragments, alors que seul le sens émerge dans la mémoire vive du siècle. Juste une anecdote, mercredi soir, Nicolas Sarkozy a oublié son menu à la tribune du CRIF, subtilisé par une équipe de Canal+, au dos, quelques mots griffonnés, fréquenter l'infréquentable, avec un C qu'il avait écrit le président, infréquentable. Preuve à l'appui, la vidéo fait le tour du net. La preuve, visiblement, qu'on ne peut se souvenir de tout.
Culture vive, Pascal Paradis.
Ambiance rock, tendance punk, souvenir, souvenir, sur les platines, les Clash, et au micro, Serge Clair, l'un des dessinateurs fétiches du journal de bande dessinée Metal Hurlant. Bonjour Serge Clair.
Bonjour.
Vous racontez cette histoire, cette longue histoire, donc de 74 à 87, dans un album, on dit d'ailleurs roman graphique, qui s'intitule Le Journal. Est-ce que c'est par nostalgie ou pour faire histoire que vous revenez sur ces années Metal Hurlant?
Non, c'était vraiment pour faire un gros livre, c'était pour faire 230 pages sur cette période qui va en fait de 74 jusqu'à 84 à peu près. Le journal est mort bien plus tard, mais je me suis arrêté à cette période du numéro 100 du journal, qui était une date, un numéro symbolique et une fin qui se passait au palace.
Oui, en vrai, il y a eu 134, je crois,
numéro, mais vous n'étiez plus.
Ça représente quoi, Metal Hurlant, dans ces années-là?
C'était quelque chose de assez fulgurant dans le paysage, comment on peut dire, audiovisuel, mais c'était pas audiovisuel, dans le paysage de la presse. C'est-à-dire qu'il y avait Pilote avant, qui était un journal pour ados. Et il y a eu, en 73, L'Écho des Savanes, qui était un journal qui commençait à être avec Gottlieb, Retéché, Mandrika, plus adulte. Donc la bande dessinée à cette époque-là, 74, commence à devenir très très adulte. Et Metal Hurlant, ça a vraiment été ça, c'était un journal pour grands garçons. Alors qu'avant, on était des garçons attardés.
Alors, c'est un journal qui a été créé par un certain Jean-Pierre Dionnet, qui est, je crois, à l'époque, secrétaire à l'Écho des Savanes, donc le rival.
Ah, ça, je sais pas. Il a dû faire des stages à Pilote aussi, peut-être. Mais ça, je sais pas.
Il est dans le milieu, voilà, mais pas vraiment au cœur du milieu. Donc,
il est scénariste en même temps. Il a travaillé un peu Pilote. Il a connu Goscinny, tout ça. Donc, il rêve de faire un journal qui soit de science-fiction, parce que c'est un fan de science-fiction. Donc, il se réunit avec Moebius, enfin Giraud, Druyet, qui sont des dessinateurs phares de Pilote, et ils se réunissent et ils fondent la maison d'édition et le journal qui s'appelle Metal Hurlant.
Et la maison d'édition, c'est les Humanoïdes Associés,
donc ils vont publier des bouquins, tout ça. Mais ils vont faire ça comme des... Dionnet dit que c'était un prosine, c'est-à-dire que c'était quelque chose de pro, mais assez mal distribué. C'est-à-dire
comme un fanzine, en fait.
Ouais, mais c'était des pros, hein, quand même. Moi, quand je recevais le numéro 1 ou le numéro 2 dans ma province, j'étais absolument fracassé par ce que je voyais. Pour moi, c'était pro, hein, il n'y avait pas de problème.
Alors, vous dites que le journal a été créé un soir de novembre dans une soupente du 10e arrondissement. Il avait l'air de pleuvoir dru.
Oui, mais c'est vrai, toujours bien. C'est comme Kane, c'est comme Orson Welles, quoi. C'est un petit peu des... Il y avait une séquence à faire et moi j'ai préféré la faire sans qu'on voit les gens. mais plus, parce que ça m'embêtait de faire des ressemblances, il fallait que je fasse Dionnet, mais aussi Druillet et Moebius, et là ça m'amusait pas, donc j'ai fait une vue de la ville de l'extérieur sous la pluie. Graphiquement c'était plus joli, puis il y avait toutes les bulles qu'on voyait, et des éructations avec des haleines de Calvados, que je précise, et des brumes d'ivresse.
Alors pour raconter Métal Hurlant, il faut donc parler de ce Jean-Pierre Dionnet qui est un peu Dieu sur Terre hein, à cette époque-là, et vous dites qu'il a des commandements. Il y a deux commandements principaux notamment, c'est les petits maîtres bizarres un peu en marge, toujours tu préféreras. Deuxième commandement, à l'affût des sursauts de la contre-culture, toujours tu seras.
Et la parfaite cravate, toujours tu porteras, était un troisième commandement, puisque j'étais fringué comme un naze à l'époque.
Donc alors c'était que lui vraiment avait l'air très chic. Hein.
Ah oui, bretelles, pantalons, cravate et ceinture.
Oui, pas du tout grunge.
Pas du tout. Non, très, très élégant.
Très gentleman.
J'étais épaté. Bon, je l'ai évidemment transcendé dans la BD en faisant un dandy particulier bondissant. Mais oui, c'était pour moi, c'est moi qui arrivais à 17 ans dans ce journal, c'était un dieu sur Terre, oui.
Mais alors, est-ce que vraiment l'idée de contre-culture, c'est le mot qui convient,
oui.
Est-ce que c'est le lieu vraiment où se crée la culture marginale?
Oui, enfin, en tout cas, on était à l'écoute, il était à l'écoute de tout ce qui se passait et ce qui était intéressant, mais en dehors des circuits habituels. Donc il savait ce qui était bien aux États-Unis, quel fanzine il fallait lire, quel dessinateur était génial, qui était mauvais, il connaissait tout. Il connaît tout d'ailleurs, toujours à l'heure actuelle, il est toujours dans le circuit.
Ça veut dire qu'en France, à cette époque-là, dans ces années-là, les années 70, la contre-culture, elle est américaine.
Entre autres, c'est-à-dire qu'il y a Zap Comics, c'est-à-dire il y a Chrome, et puis en France, on a Charlie Mensuel, où il y a des dessinateurs qui travaillent. Elle est aussi en France, mais on est vachement influencé par les États-Unis, oui.
Et est-ce que c'est un journal de, est-ce qu'on peut dire de résistance?
Je pense pas que c'était de résistance. Non, il voulait juste faire quelque chose de beau, de graphique, de différent, d'adulte. Vraiment, Pilote était pour ados, donc avec Blueberry. Mais nous, on voulait faire autre chose. C'était de l'ASF qui nous intéressait par-dessus.
C'est quand même en rupture avec l'air du temps, parce que les années 70, on est sous Giscard.
Ouais.
Et d'ailleurs, c'est un peu la bête noire du journal.
Ah là, moi, je me suis amusé à régler mes comptes. parce que vraiment, la culture à l'époque était vraiment ignorée. La bande dessinée, les gens ne savaient absolument pas ce que c'était. Enfin, dans les hauts milieux, quoi. Et on s'est fait censurer pratiquement immédiatement. J'ai jamais su pourquoi exactement, mais on détonnait dans le paysage. Et donc là, dans le journal,
c'était un peu trash parfois, non? Et
puis oui, c'est vrai.
Il y avait des filles qui se faisaient fouetter, des choses comme ça.
Oh, il y avait quelques petits. Oui, mais ça paraît très sage maintenant.
Maintenant, oui.
Mais à l'époque, c'était le meilleur journal du monde, et on se fait censurer par Poniatowski et Giscard d'Estaing, donc j'ai pas apprécié. Donc dans le journal, je raconte cet épisode en disant que la vengeance de Jean-Pierre s'accomplira. Et effectivement, en mai 81, Giscard est évacué de l'Élysée, et dans ma bande dessinée, on le voit pris par une main géante, façon ici Comics.
Alors, ce qui est étonnant, c'est que vous êtes censuré en France. En fait, pas vraiment censuré, vous êtes interdit à l'affichage.
Ce qui revient au même.
Donc, interdit.
La mort est au bout du chemin s'ils ne peuvent pas publier des affiches, ou si on n'est pas visible dans les gares ou des choses comme ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas totalement interdit, mais c'est un peu jésuite comme truc.
Mais en même temps, vous êtes totalement autorisé, lu en Espagne, aux États-Unis, et notamment aux États-Unis, car c'est l'un des seuls journaux français qui traverse l'Atlantique.
Oui, c'était la première fois que un journal faisait le trajet dans le sens inverse. C'est-à-dire que les Américains nous vendaient des trucs, et là, c'est la première fois que Dionnet leur vend un journal. Alors moi, je montre au début qu'il y a plein de difficultés, que le journal peut se casser la gueule tout du long, ce qui a été le cas. Mais là, pour le coup, ils ont réussi leur coup. Ils ont vraiment vendu le journal. Ça a été traduit aux États-Unis sous le nom de Heavy Metal. Et c'est d'ailleurs un journal qui est resté. Bon, avec des fluctuations, c'est un journal beaucoup plus trash maintenant, enfin heavy metal plus exactement.
Oui, et là-bas, c'est donc un mythe. Pour preuve, il y a eu un film dans les années 80, un film américain d'animation qui s'appelait Heavy Metal.
You're nothing to fear.
Saba qui faisait donc la BO de Metal Hurlant, Heavy Metal, le film. Serge Clair, comment vous arrivez dans l'aventure de ce journal Metal Hurlant? Vous avez commencé déjà à nous répondre en nous disant que vous arriviez de votre province natale.
Oui, j'étais perdu au fin fond de ma province. Et donc ce journal pour moi était une révélation. Je voulais publier dans Pilote avant, et puis Metal est arrivé, donc c'est là que je voulais publier. Donc j'ai envoyé des crobards par la poste, des originaux, et qui sont arrivés à Moebius, qui était mon idole. Et donc c'est Dionne qui a réceptionné la lettre, qui a dû montrer à Moebius, mais c'est lui qui m'a fait venir, qui m'a engagé.
Ah oui, il vous engage tout de suite.
Oui, donc j'avais 17 ans. Mais moi, j'avais envoyé des dessins juste pour dire, voilà, je dessine moi aussi dans mon coin, j'adore.
Mais vous dessinez quoi?
Je suis très influencé par Moebius, c'est-à-dire très hachure, très un peu aussi à la Crumb, très hachure, pas du tout la ligne claire que je ferai un peu plus tard. Là, j'étais vraiment sous influence, ce qui est un peu normal pour un jeune dessinateur. Mais être engagé dans le journal de mes maîtres, c'était invraisemblable.
Et vous allez inventer un personnage qui s'appelle Phil Perfect.
Un peu plus tard,
qui est une espèce de journaliste un peu paumé.
Non, c'est un journaliste d'investigation très réputé, mais qui a un ami écrivain de romans idiots, mais qui se vendent très très bien. Donc ça, c'est mes personnages qui viennent un peu plus tard. J'ai travaillé assez longtemps et développé des personnages au fur et à mesure. J'ai commencé par faire des dessins de rock avec Philippe Manœuvre, qui est arrivé au journal aussi au tout début. Parce que le journal au début était SF pur et dur, et très vite s'est ouvert au rock, et le journal s'est ouvert aussi au polar, tout ça. Donc d'un seul coup, c'est devenu quelque chose très en phase avec l'époque. On avait Manchette qui bossait aussi avec nous. On avait vraiment
auteur
des traits, voilà, auteur de polar. On avait beaucoup de chroniqueurs comme ça. Donc c'était un endroit où tout pouvait se faire.
Et vous créez Phil Perfect, mais vous créez aussi d'autres personnages. Il y a Capitaine Futur, par exemple.
Avec une histoire de SF que je fais avec Philippe Manœuvre, effectivement. Je fais mes armes, en fait. C'est mon université métal. C'est là que j'apprends l'orthographe, vaguement. J'apprends ce qu'il faut lire, Bukowski, Fante, et que j'apprends aussi mon métier, le dessin, tout en me disant, mais qu'est-ce que je fais là? C'est une erreur, on m'a engagé par erreur.
Il y a une planche très très drôle, Serge Clair, dans votre album Le Journal, qui s'appelle À la recherche de la pin-up parfaite, où on vous voit comme ça essayer de dessiner au maximum la pin-up, qui normalement a des rondeurs, alors que votre style est plutôt anguleux.
Au début, j'étais super malhabile, et je faisais des couvertures de SF pour Manchette, justement, qui était directeur de collecte, et il m'avait dit, ouais, bon, elles sont peut-être pas assez bien encore, tes pin-up. Et là, j'étais mort de honte. Je me dis, je serais le meilleur dessinateur de pin-up du monde. Mais bon, je m'en suis un peu servi pour en faire une histoire. Quoi. J'ai un peu transcendé la réalité.
Mais de votre style, on dit qu'il est parfois cubiste. Est-ce que vous êtes
d'accord? J'ai évolué, j'ai continué. Ouais, je sais pas. Moi, je suis assez mauvais juge de ce que j'ai fait. Parce que j'ai toujours continué à avancer, à évoluer. J'ai jamais pu m'arrêter dans un style figé vraiment. Donc je suis insaisissable.
Oui, mais vous êtes quand même plutôt, et sans faire jeu de mots, parce que vous l'avez fait vous-même d'ailleurs, adepte de la ligne claire quand même.
J'étais
mais
cousin,
un peu plus accidenté.
Oui, voilà, on appelle ça la ligne ato, mais moi ça m'intéressait bien d'être catalogué un peu, pour un temps en tout cas, dans la ligne claire, puisque ça faisait un mouvement un peu à la François Truffaut qui avait fait la nouvelle vague. J'aimais bien ce côté mouvement.
Mais vous dites que vous êtes obsédé par le trait.
Oui, alors ça c'est vrai, c'est absolument vrai, c'est-à-dire la cassure du vêtement, le pli de pantalon, c'était une obsession parce que c'est ça pardonne pas, c'est graphiquement, ça peut être extrêmement beau, comme ça peut donner à un pantalon l'aspect d'un sac.
Mais vous avez la main ferme ou c'est beaucoup
ça,
de travail?
Ça je saurais pas. Ah non mais vous rigolez, c'est des années de travail, j'ai commencé à 5 ans moi.
À 5 ans?
Oui, moi à 5 ans je savais que je voulais être dessinateur.
Ah ouais, vraiment? Ouais. Comment vous avez su ça?
Je sais pas, révélation. Je suis tombé sur un album d'Hergé tout fusillé qui était au Pays de l'Or Noir et qui était en 1000 morceaux. Et quand j'ai vu cet album, ça m'a fait un choc. Je me suis dit, je serai dessinateur. Enfin, je me suis même pas formulé ça comme ça, mais c'était évident.
Pourquoi vous êtes... Oui.
Allez-y. Oui, c'est les mystères de la révélation et des vocations. C'est incompréhensible. On sait pas pourquoi d'un seul coup, toi, tu seras tennisman et toi, tu seras dessinateur. Je sais pas.
Vous avez signé longtemps, peut-être tout le temps, je sais pas, dans ces années Metal Hurlant, sous le pseudo de l'espion.
Ça, c'est Philippe Manœuvre, qui était donc chroniqueur rock et puis secrétaire de rédaction au journal, qui très vite m'a surnommé le dessinateur. Il m'a confirmé ça récemment, parce que moi, je me demandais si c'était pas moi, puisque je suis très amateur de John Le Carré, si c'était pas moi qui m'étais auto-surnommé. Non, c'est lui qui m'a donné ce surnom. Je devais fouiner partout, je pense que c'est pour ça.
Mais ça vous va bien? Ça vous plaît?
Oui, je l'ai gardé, oui.
Vous l'avez gardé encore aujourd'hui?
Quand on me dit le dessinateur d'action, ça ne me dérange pas, oui.
Donc c'est vous?
C'est moi.
Thank you. Joe Jackson sur RFI, ça vous fait des souvenirs, ça aussi, Serge Clair?
Oui, c'est vrai qu'à une époque, je faisais des pochettes de disques. J'ai fait beaucoup de bandes dessinées rock pour Metal et pour Rock et Folk, qui était un journal frère de Metal. Et donc, on m'a commandé effectivement des pochettes de disques. Ça faisait un peu partie du boulot à une certaine époque où j'étais traduit en Angleterre et je faisais des dessins dans le journal qui était le New Musical Express. Donc, j'ai vraiment été dans la presse. C'est pour ça que j'étais un peu orphelin, moi, quand le journal après va se casser la figure, va mourir. J'aimais bien travailler dans la presse et faire mes dessins, des piles et des piles de dessins, et puis les rédacteurs les passaient au fur et à mesure quand ils en avaient envie.
Mais pourquoi Metal Hurlant a disparu d'ailleurs?
Parce que ça a toujours été un journal qui était là au début sans appui, sans capitaux, sans rien. Donc, ils ont eu des dettes dès le début. Donc,
ouais, depuis le début.
C'était plombé.
Vous racontez le début. Ouais. Le premier numéro, il n'arrive même pas à imprimer en France. Ils sont obligés de trouver imprimeur en Italie.
Ils changent d'imprimeur pour éviter les ennuis puisqu'ils n'ont pas payé, des choses comme ça. C'était une cavalerie en avant. Enfin, c'était une fuite en avant, mais qui donne une dramaturgie au bouquin qui m'intéressait aussi. Donc j'ai un peu tordu la réalité, mais c'est vrai qu'on était plombé de dettes dès le départ. Ce que je ne savais pas, moi, Dieu merci, donc j'ai fait un dessinateur, c'est-à-dire moi qui arrive à 17 ans, sans s'apercevoir, qui voit tout ça comme un truc merveilleux, qui traverse ça en funambule. Mais par derrière, tout peut se casser la gueule à tout moment. Donc Jean-Pierre, lui, est parfaitement au courant que ça peut s'arrêter à tout moment et que donc c'est l'angoisse tout du long.
Et puis à un moment, ça craque donc.
Puis dans les années, 15 ans après, 12 ans après, ouais, ça. Forcément, ça finit, quoi.
Mais c'est forcément un peu étonnant de revoir l'histoire de la bande dessinée de ces années-là, parce que Metal Hurlant n'était pas le seul journal, d'ailleurs. Ouais. À l'époque, il y avait une sorte de foisonnement de BD, de maisons d'édition aussi. On a la sensation aujourd'hui que personne n'a pris le relais. Or, la bande dessinée, me semble-t-il, ne s'est jamais aussi bien portée qu'en 2008. Vous faites la grimace.
Je fais pas la grimace, mais enfin, il y a 4000 albums qui sortent par an. M'a-t-on dit, et moi j'étais sur mon album là pendant les 4 dernières années, parce que c'est un gros opus, et quand je suis sorti donc de ma léthargie et de cette bande dessinée, je me suis dit 4000 BD, donc ça veut dire 4000 auteurs. Moi à l'époque on était 200 quoi, tout cassé, donc je me suis dit je sors et c'est l'enfer. Je vais lutter au couteau avec toutes ces... mais il n'y a plus de journaux, il n'y a plus d'endroits où on peut voir les choses se créer, il y a des albums partout, un peu beaucoup quoi, c'est peut-être trop, je sais pas.
Mais est-ce que ça assèche la créativité?
Je
des
sais pas. Alors là, je sais pas si
parce que finalement ça peut manquer justement un journal qui soit un peu un laboratoire qui puisse accueillir jeunes garçons comme vous qui ont 17 ans et qui font leurs armes.
Moi, je trouve que il manque un journal comme ça, mais il faut des appuis, des capitaux comme d'habitude quoi.
Mais vous avez l'impression que le relais quand même est pris par la jeune génération
des
auteurs.
J'étais un peu resté dans mes... J'ai fait des enfants, j'ai fait d'autres choses. Et donc
c'est pas mal la vie aussi.
Oui, il faut. Et je suis un chercheur moi dans mes dessins, donc j'ai toujours cherché dans mon coin et j'ai pas trop vu ce qui se passait à côté.
Mais est-ce que vous êtes aujourd'hui un maître? Pour certains, si en tout cas des auteurs viennent vous voir
j'ai toujours l'impression de chercher encore à l'heure actuelle et d'avoir des choses à dire. Et un maître, bah tant mieux, mais faut pas trop m'encenser parce que
chercher c'est un peu gênant. De la création, quand même.
Oui, voilà, moi je cherche. Ouais.
Et vous continuez à dessiner journal et d'autres.
Et j'ai plein de projets. C'est pour ça que j'ai pris beaucoup de temps. C'est parce que ce bouquin ouvrait sur d'autres, d'une part des rééditions à faire et puis d'autre part d'autres projets.
Merci Serge Clair. Le journal, donc le vôtre, est édité chez De Noël Graphique. Dans quelques secondes, c'est le journal, celui de RFI, pour avoir les dernières infos. Et nous reviendrons ensuite sur la disparition de l'écrivain Alain Robbe-Grillet dans la seconde partie de l'émission.